Bonsoir et bienvenue, c'est l'heure de votre quinzomadaire radiophonique préféré. Enfin, c'est ce qu'on espère. Ce soir encore, on va parler de nouveaux regards, de nouvelles histoires, mais aussi de nouveaux talents, évidemment. On va parler d'Irak et de Luna Park. Mon invité est écrivain. Mais avant de commencer, est-ce que vous pensez qu'un amour peut aider à se traverser un deuil? C'est la question posée à Yvan et Peter, deux frères qui au début du roman viennent d'enterrer leur père. Ce roman, c'est Intermezzo, le dernier roman en date de l'écrivaine irlandaise Sally Rooney, roman qui vient de paraître en poche également. Sally Rooney, ce nom vous dit peut-être quelque chose car elle a écrit Normal People, un roman adapté sous la forme d'une série qui a valu à l'autrice le surnom de Jane Austen numéro 2, tant elle excelle comme son illustre aîné à décrire les sentiments. On a aussi parlé de Surdoué des lettres irlandaises, ce qui est mérité au regard des 4 romans qu'elle a déjà publiés à 30 ans environ, mais ce qui est immérité car tous les romans irlandais sont réussis et donc tous les Irlandais sont des grands romanciers. Si je vous parle ce soir d'Intermezzo, c'est que j'ai d'abord beaucoup aimé ce livre, notamment parce qu'il n'y a pas tant de livres que ça qui s'intéressent à ce qui se passe au sein d'une fratrie. Ce sentiment particulier, très fort et complexe, où la plus grande proximité peut s'accompagner de la plus grande incompréhension. Peter et Ivan, donc les deux héros, ne font pas exception et le racontent bien cette relation faite d'affection sincère, mais de colère aussi, de ressentiment, et d'autant plus dans cette histoire que la différence d'âge entre les deux est élevée. On peut difficilement imaginer personne plus opposée que nos deux héros, Peter et Ivan. L'aîné est un brillant juriste, le cadet un champion local d'échecs qui stagne, qui est un peu monomaniaque. Le premier est une sorte de béate sociale extravertie, à l'aise partout dans tous les milieux. Quand le second est plus à l'aise pour faire maths sur un échiquier que pour nouer des relations avec les autres. L'un et l'autre essaient de vivre des histoires d'amour que certains jugeront compliquées, où l'on découvre qu'en Irlande, il est difficile pour un quadragénaire séparé de son mari de tomber amoureux d'un jeune joueur d'échecs. Peter, lui, l'aîné, a d'autres problèmes partagés entre deux femmes, son grand amour blessé après un accident, et une femme beaucoup plus jeune que lui. Ça ne pose pas de problème à grand monde en Irlande, mais bon. Et avec laquelle il entretient une relation, par contre, non dénuée d'intérêt. Comme on disait à l'époque sur les réseaux sociaux, et pour résumer, ils sont en couple, mais c'est compliqué. Le roman est dense, écrit simplement au plus près des personnages et de leurs émotions. Il y a un signe qui ne trompe pas, les scènes d'amour sont à la fois très simples, écrites avec précision et émotion. Je vois le temps qui passe, Intermezzo de Sally Rooney a été publié aux éditions Gallimard, c'est publié en poche chez Folio, et c'est traduit par Laetitia Deveau. C'est peut-être un détail pour vous, mais j'ai gagné la course contre la virgule. Bonsoir Kevin Thiébon.
Bonsoir.
Vous êtes l'auteur de La bouche dans le sable aux éditions Le Bruit du Monde. Vous avez lu à tout hasard ce livre dont je viens de parler. Vous aimez Sally Rooney?
Je suis très intrigué par Sally Rooney, en effet. Je n'ai pas lu ce livre, mais il me tente et vous le présentez très bien.
Oh, c'est gentil. Alors, vous publiez, donc je le dis, La bouche dans le sable aux éditions Le Bruit du Monde. J'ai insisté parce que c'est une maison d'édition marseillaise. Donc tout ne se passe pas à Saint-Germain-des-Prés dans le monde des lettres. Est-ce que vous voulez bien m'aider à résoudre un problème que j'ai eu autour de votre vie qui m'a même amené à consulter ChatGPT, cet oracle moderne? La bouche dans le sable est partout indiquée comme étant votre premier roman, mais en 2020, vous avez eu le prix du jeune écrivain. Alors comment vous avez fait?
En effet, le prix du jeune écrivain consacre des nouvelles. J'ai déjà en effet écrit une nouvelle.
Ben ça, ChatGPT ne le sait pas.
Il faudra le renseigner parce qu'il a encore des progrès à faire. En effet, c'était une nouvelle qui a paru en 2020 et voilà, qui consacre justement des jeunes écrivains en devenir. Nous étions 12 mon année, 12 lauréats.
Et on peut vous demander sur quoi portait cette nouvelle? Parce que moi, du coup, je ne l'ai pas trouvée.
Elle est publiée, le recueil est publié chez Bûcher Chastel. Et le titre de ma nouvelle, c'est « De la framboise et des cendres ». Et c'est vrai que le texte passait du temps, en fait, à regarder la trajectoire d'un enfant, encore une fois, dans un pays en guerre, encore une fois. Donc il y a quand même quelques correspondances avec
mon premier roman.
Ouais.
Avant d'en parler, enfin justement pour en parler, pour un premier roman, vous vous confrontez à l'histoire avec un grand H, on est loin de Paris, le cœur battant de l'histoire se trouve en Irak, et aussi sur la Côte d'Azur, mais il n'y a d'histoire que parce qu'il y a la guerre en Irak. Est-ce que ça reflète chez vous une vision du roman? Vous pensez que le roman, ça doit embrasser les grands sujets, empoigner les grands sujets, embraser c'est autre chose. Est-ce qu'on doit se confronter à l'histoire, ou est-ce que c'est juste votre premier roman et puis peut-être que les autres sont différents?
Alors, j'avais quand même à cœur que le roman s'inscrit quand même dans une réalité historique qui pour moi me permettait de raconter une histoire la plus vraie possible. Évidemment, la difficulté était de la rendre la plus juste possible. Mais donc voilà, la perspective historique me m'attire évidemment pour ça, pour ancrer en fait, ancrer dans le réel. Et on en parlera sans doute, mais c'est vrai que mon expérience a largement nourri, on va dire, le contexte de ce texte, et donc il fallait que ce soit relatif à l'histoire.
Je reviens au nom de votre éditeur, et c'est peut-être un hasard parce que vous l'avez peut-être envoyé à d'autres éditeurs, mais ça veut dire que pour vous, le roman, il doit aussi raconter le monde d'aujourd'hui ?
Il doit évidemment raconter le monde d'aujourd'hui. Je pense que l'avantage du roman, c'est de donner libre cours à des situations, à des personnages, à des pensées qui sont non théorisables à froid nécessairement. Donc c'est vrai que le roman, il a ce pouvoir-là de tenter de raconter le monde actuel sous un angle singulier. Et donc c'est pour ça qu'on aime en lire et qu'on aime en écrire.
Je m'intéresse toujours à vous. Est-ce que ça veut dire, ce livre-là, que vous êtes plus Joseph Kessel que Marcel Proust ? Je l'ai fait un peu à la hache. Hein. C'est, parce que je pense que vous aimez aussi Marcel Proust.
Oui, je suis plutôt, enfin pour la langue évidemment, plutôt Marcel Proust. Mais c'est vrai que Kessel, moi j'ai adoré L'Armée des Ombres,
par exemple, Le Souffle épique.
Exactement.
Confrontation à l'histoire. Moi je pensais plutôt au Cavalier, à ces romans qui se passent. Oui. Alors là, c'est plutôt l'Afghanistan. Mais...
Oui. Mais en effet, puis il y a le vécu dans des endroits très particuliers, voilà, de l'âme humaine que Kessel a vu. Et donc oui, j'irais peut-être plus Kessel dans ce cas.
Mais sinon, c'est qui vos auteurs préférés ?
Ça va dépendre
des jours.
Des jours, en effet, et des années, j'allais dire. Mais je dirais qu'un auteur comme Stefan Zweig a beaucoup compté pour moi.
C'est vrai, qui est au début de votre livre.
Qui est mis en exergue, en effet, au début du livre. Et puis après, Marguerite Yourcenar, par exemple, a beaucoup compté également sur des. Et puis sur des textes plus récents et plus mainstream, je dirais. Je pense que le Goncourt 2018 de Nicolas Mathieu a eu un. J'étais encore jeune à l'époque et c'est vrai qu'il m'a fait de l'effet.
Leurs enfants après eux ?
Leurs enfants après eux. Et je me souviens toujours de cette phrase, la dernière, qui dit ceci, qui dit l'effroyable douceur d'appartenir. Et c'est vrai que ce texte a compté également, parmi d'autres, hein, bien sûr.
La bouche dans le sable, donc votre roman, naît de la rencontre entre Marwan et Zelda sur la Côte d'Azur. Ce sont deux adolescents. L'une est plutôt extravertie et fantasque, l'autre traîne une hérédité difficile. Vous écrivez de lui que son identité est indéchiffrable et comme noyée dans la boue. Vous ne l'écrivez pas exactement comme ça, j'ai essayé de le remettre dans l'ordre. C'était intéressant aussi pour vous de faire se rencontrer deux personnages qui n'auraient jamais dû se rencontrer et de voir ce qui se passait. Est-ce que c'est aussi une histoire d'adolescence en fait ? Est-ce que ça pourrait être un roman pour adolescence que vous avez écrit ?
Disons que moi j'ai voulu quand même une écriture relativement accessible, donc oui, déjà il est lisible par des plus jeunes. Après, en effet, c'est l'histoire en particulier d'adolescents et ça nous permet d'accueillir des émotions plus brutes en fait, plus brutes que quand elles sont adultes, et quand on voit évoluer l'enfant, l'adolescent, ça nous donne accès quand même à des situations plus simples à raconter. Donc ensuite, est-ce que c'est un roman pour adolescents ? Pas nécessairement, j'espère que c'est un roman un peu pour tous, mais
en tout cas qui peut parler à des adolescents.
Et oui, il peut parler à des adolescents.
Bah, ouais. Les romans pour adolescents, il y en a des grands, hein,
tout à fait,
que la Trappe-cœur. Hein,
ouais, exactement, non, bien sûr. Il peut parler, en effet, il peut parler aux adolescents. Et l'idée était aussi de le faire à hauteur d'adolescents pour suivre au plus près de la peau de ces deux personnages l'histoire qu'ils tentent de raconter.
C'est amusant parce que je repense juste à la question que je posais avant sur vos goûts et à votre réponse. Et j'avais noté que vous avez écrit sur l'adolescence, je passe 85, hein, tout est très bien noté. Parfois, je me trompe dans les chiffres, mais bon, il n'y a que moi qui le sais. Les passions changent, les préjugés restent. Les préjugés passent.
Les préjugés passent.
Les passions changent, virgule, les préjugés passent. C'est comme ça que vous décrivez l'adolescence, ce moment en fait où tout change ?
Oh bah, c'est un âge en effet où les passions sont tellement fortes que pour bien tristement souvent elles finissent par passer et elles passent d'autant plus que quand elles ne sont pas considérées, regardées ou quand on n'est pas attentif à celles-ci, donc c'est vrai que tout est très intense et c'est l'avantage de l'âge adolescent. C'est pour ça qu'aussi j'ai voulu passer par cet âge-là qui est extrêmement puissant, qui était un âge de feu. Donc
Mais en même temps vos deux personnages Zelda donc et Marwan, ils ne se changent pas tant que ça parce qu'ils sont adolescents. Quand elle, on sent bien qu'elle est passionnée. La photo, c'est sa passion et elle va continuer à la voir. Alors Marwan, c'est plus compliqué. Il y a une espèce de fidélité avec laquelle il va devoir vivre. Mais
Et justement, justement, Zelda, elle prend le contre-pied, elle ne change pas tant que ça, ses passions demeurent parce qu'elle est habitée par quelque chose de plus grand et quelque chose en effet qui la dépasse, et donc elle change assez peu. Et quant à Marwan, lui, il essaye délibérément de changer, mais Zelda ramène Marwan à son identité initiale.
Duquel des deux vous sentez le plus proche, vous ?
Question extrêmement difficile.
Alors, vous dites les deux, c'est facile.
S'il fallait choisir. Oui, évidemment les deux, mais je pense que ça dépend des moments du roman. Je pense qu'au début du roman, peut-être plus de Zelda, et à la fin, peut-être plus de Marwan.
Moi, ce qui m'a frappé dans votre roman, c'est que les parents sont très peu présents. C'est le lien avec les grands-parents qui est important. On parlait avant, en parlant de cette ironie, de quelqu'un qui parle d'une fratrie, ce qui, moi, je trouve, est assez rare dans la littérature. Là, c'est aussi assez rare, là, un livre sur les grands-parents. Alors il y a un grand-père qui compte pour Marwan, hein, ce grand-père c'est Ali. Il y a une grand-mère qui compte beaucoup pour Zelda, même si ça change au début, c'est sa grand-mère, et peut-être qu'elle se rapproche de son grand-père. Sa grand-mère s'appelle Féfé. Est-ce que ça vous intéressait d'écrire sur ce lien?
Terriblement. D'un point de vue très très personnel, moi j'ai eu la chance de connaître mes quatre grands-parents et de nouer une relation vraiment très forte avec eux, et je pense qu'ils ont compté énormément dans ma vie. Donc je trouve que évidemment le lien qu'entretient le jeune enfant puis l'adolescent avec ses grands-parents, il a quelque chose de radicalement différent de ce que d'un lien.
Mais de formateur aussi, parce qu'on est toujours
de très formateur aussi. Même si encore une fois, c'est peut-être moins vertical, c'est peut-être plus doux, parce qu'il y a moins la notion d'éducation. On va dire dans une famille classique, hein, bien sûr. Et donc c'est vrai que tout est beaucoup plus permissif.
Je remercie que le premier remerciement que vous adressiez dans votre livre, c'était à vos grands-parents.
Oui.
Donc c'est sûrement pas un hasard.
Oui.
Et est-ce que si, parce que c'était plus simple de raconter le petit-fils, je vais juste dévoiler un élément de l'intrigue, parce que moi j'aime pas trop raconter les intrigues des romans à la radio, je trouve que ça sert à rien, les gens s'ils veulent lire le livre, on leur donne envie de le lire, c'est que le grand-père est un tyran, c'est peut-être plus facile de raconter l'histoire d'un petit-fils, d'un personnage monstrueux que d'un fils, parce que le fils il aurait été plus marqué, plus dans l'opposition directe. Est-ce que s'il y avait aussi ça, ça vous permettait ça ?
C'est très juste de le dire comme ça, et en effet le jeune Marwan en l'occurrence...
On peut peut-être dire qui est son grand-père, mais je vous laisse décider, c'est vous qui décidez.
Oui, son grand-père, en fait on le découvre assez vite au tout début du roman, c'est Ali Hassan al-Majid, connu sous le nom de Ali Chimique, et donc est un personnage qui a existé et qui était le bras droit de Saddam Hussein à l'époque du régime Bass. Et donc en effet la relation qu'il entretient, elle est intéressante parce qu'on est fasciné, on adore ses grands-parents, si tant est qu'on ait une relation au moins saine avec eux, et lui va découvrir que ce grand-père est un bourreau. Donc en fait, comment on arrive à se détacher de cet amour inconditionnel qu'on peut avoir pour un grand-père extrêmement présent, extrêmement fort, symbolique, comment on s'en détache? Et donc évidemment que c'était beaucoup plus intéressant pour moi de le raconter du point de vue du petit enfant que de l'enfant.
Mais vous en arrivez presque à effacer les parents, ils sont très très peu présents.
Et ils sont très peu présent dans les deux cas, et c'est assez délibéré parce que en fait la figure de Ali en Irak elle est omnipotente, et donc elle écrase, et c'est une relation quand même très verticale.
Mais j'imagine que dans ces familles-là, ça va être compliqué.
C'est compliqué, donc c'est le patriarche, c'est en effet celui qui décide, donc les parents sont plus, et puis en plus de ça, lui il avait rang de seigneur, il était très important dans le régime, donc dans le régime de Saddam Hussein. Donc, en effet, c'était un monsieur.
Vous-même, vous avez vécu en Irak, et je l'ai lu, en tout cas, vous y avez séjourné. Est-ce qu'on peut vous demander dans quel contexte ?
J'y suis allé en effet deux fois, une première fois quelques mois pour écrire sur un petit papier sur les milices irakiennes et sur la réconciliation nationale. Pour un think tank, pour un centre de recherche. Et une deuxième fois, j'y suis allé avec un mandat officiel pendant un an pour en tant que conseiller politique pour le ministère des Armées.
Et on ne rencontre pas tous les jours quelqu'un qui a vécu en Irak et qui a vécu à Bagdad. Cette ville, vous en parlez comme d'un ogre. Comment vous la décririez aujourd'hui ? Enfin, c'est la ville que vous avez connue. On la ressent dans le livre, mais vous ne la décrivez pas vraiment. Vous jouez plus par les sensations. Et cette image d'ogre qui revient, je crois, à plusieurs reprises. Hein, vous dites que cette ville est un ogre qui mange... Je l'ai noté quelque part, mais voilà, je ne vais pas retrouver.
Oui, c'est une île qui dévore parce qu'il y a beaucoup de monde, parce qu'il y a du bruit, parce qu'elle a vécu énormément et que Bagdad est entourée aussi d'un fantasme plus large que la ville elle-même, et notamment dans nos sociétés occidentales. Bagdad, déjà le mot Bagdad, il est très il est dur, il est rude. Et Bagdad a incarné même une conception du chaos dans nos sociétés. Quand on dit ici c'est Bagdad, on signifie que ici c'est le bordel, quoi, pour parler crûment. Donc cette ville, moi je l'ai ressenti comme ça parfois et parfois pas du tout comme ça. Je l'ai ressenti aussi beaucoup plus doucement à travers les habitants de cette ville, même si elle a été meurtrie.
Je vais lire un petit extrait, ça donnera une idée de votre style aux gens qui nous écoutent. Marwan admire sa ville, il a les yeux ravis et deux petites fossettes aux joues. Veillé par le tigre sale que la lune fait briller, Bagdad est rempli de lumière et de cris de joie, de coups de klaxon et d'engueulades. Bagdad est une ville chaude qui grouille, qui dévore, qui n'a pas encore peur. Elle a la carrure d'un ogre. Elle est la vitrine d'un pays qui clame être à l'origine des hommes. C'est de vous, hein ?
C'est, en effet.
C'est une ville que vous aimez ?
Ah oui, j'ai beaucoup aimé.
Vous avez eu un lien fort là-bas ?
Oui, j'ai beaucoup aimé la ville. Alors, j'ai eu beaucoup de frustration également parce que mon premier séjour, je vivais, on va dire, à l'Irakienne, chez des Irakiens, donc c'était quelque chose d'assez grandiose pour moi. Le second était beaucoup plus encadré, donc j'en ai moins ressenti le pouls. Et donc j'en ai tiré en effet une frustration assez importante de pas pénétrer plus avant la ville de Bagdad. Voilà, même si j'ai fait quand même des connaissances très intéressantes avec des gens qui ont vécu et qui ont souffert au cours de ces, on va dire, 40 dernières années.
Au fil du roman, alors elle va aller aussi à Bagdad, et il y a un moment, vous écrivez, enfin en tout cas, encore je ne veux pas trop en dire, donc c'est compliqué, mais il réalise que finalement peut-être, donc Marwan réalise que Zelda connaît mieux Bagdad que lui. Est-ce que vous vouliez aussi créer un roman sur l'exil ? Est-ce que vous avez rencontré ces exilés qui finalement s'aperçoivent que des gens qui aujourd'hui y vont connaissent mieux leur ville aujourd'hui qu'eux ?
Alors j'en ai pas rencontré beaucoup, mais ça m'est arrivé en effet d'en croiser quelques-uns et surtout de croiser des habitants de Bagdad qui ont conscience en fait de cette fameuse diaspora irakienne qui est partie. Beaucoup ont fui, beaucoup se sont cachés aussi pour les personnes issues du régime de Saddam Hussein. Donc et en effet ça crée un décalage important entre ceux qui vivent dans leur chair la ville et qui ne l'ont jamais quittée et ceux qui l'ont quittée et qui croient la connaître alors qu'ils ne la connaissent plus du tout.
Ouais. On va aussi quand même parler, une grande partie du roman se déroule sur la Côte d'Azur et dans ce qu'on appelle un Luna Park, donc un parc d'attractions. Pourquoi cet endroit ? C'est très étrange. D'ailleurs, on voit, il y a une grande roue. Alors, il y a une scène au début qui ouvre le livre qui se passe dans une grande roue. Vous écrivez, là encore, hein, parce qu'ici, les histoires de chacun se réduisent au rire et se vautrent dans une excitation qui prend toute sa place. C'est ça que vous offrez, la grande roue, un lieu léger, en contraste. Vous avez cherché un contraste ?
Ah oui, vous avez tout compris, c'est exactement ça. Le Luna Park est en effet le lieu complètement qui se situe à un opposé diamétral en fait avec la pesanteur, le sérieux de la guerre, voire le tragique de la guerre. Le Luna Park, c'est un lieu de la liberté folle, je le dis dans le texte aussi, et c'est un lieu où tout s'efface finalement et vous faites les différences tout bêtement entre les adultes, les enfants, entre les riches, les pauvres. En fait, quand on est dans le manège, tout s'efface. Et c'est intéressant parce qu'on a tous, à mon avis, vécu des moments, des émotions fortes dans des Luna Park, sous quelques conditions que ce soit. Et ça permettait d'effacer tout ça et de créer ce fameux contraste que vous évoquez, justement, entre la dureté de la vie en guerre et puis le Luna Park. Et j'ajoute que l'intérêt aussi, c'est qu'un Luna Park à Antibes et un Luna Park à Bagdad, j'ai côtoyé les deux. Même si l'un est peut-être un peu moins bien conservé que l'autre, c'est la même chose. C'est la même chose, qu'on soit à Bagdad ou à Antibes.
Et il finit dans un Marwan, il finit par travailler dans un train fantôme.
Et voilà.
C'est un hasard.
Exactement. Il arrive à Antibes et pour plein de raisons, et puis il travaillera dans ce Luna Park et dans un train fantôme.
Et ben on va écouter un peu de musique et on vous retrouve, Kevin Thiévon. Vous êtes l'auteur de La Bouche dans le sable aux éditions Le Bruit du Monde. Il est déjà 18h20.
Déjà le matin, sommes-nous hier ou déjà demain? Sommes-nous à l'endroit ou à l'envers? C'est le premier des derniers vers. souviendrait plus de rien. On se tient droit ou de travers. On se dit tout et son contraire.
Romain Muller, à l'envers sur Radio Campus Paris. Si j'avais bien fait mon travail, j'aurais dit que c'était un extrait de la Fresh List. On est toujours avec Kevin Thiévon, auteur de La bouche dans le sable aux éditions Le Bruit du Monde. Avec vous, on est en Irak. Vous pensez vraiment que... je m'aperçois que je réponds avec une question improbable. Vous pensez vraiment que le monde raffole des bourreaux ? C'est ce que dit un de vos personnages ?
Vaste question, je le pense.
En tout cas, est-ce que... Bah, allez-y.
Je le pense pas, mais je pense en effet qu'il y a un appétit pour la violence, il y a un appétit... Il suffit, je sais pas, de regarder, par exemple, quand il y a une bagarre dans la rue, tout le monde s'arrête et regarde, ou filme, ou je ne sais quoi. Donc oui, il suffit de regarder aussi notre consommation de films de guerre, de violence, de baston. Donc il y a un appétit.
Une fascination pour la violence.
Oui, inhérente, à mon avis, à notre condition, mais ouais, indéniablement.
Pourquoi vous avez fait de Zelda une photographe ? Vous vouliez qu'elle témoigne ?
Je voulais qu'elle témoigne et qu'elle ait le sentiment de figer, de posséder, en fait. Un cliché, une photo, ça se possède. Et je voulais en effet, pour alimenter en fait, ce personnage-là, je voulais qu'elle soit elle-même dans une dynamique de possession, de capture. Voilà, de capture et donc la photo permet ça. Et évidemment, je voulais qu'elle ait comment dire, une fibre artistique, parce que c'est ce qu'elle est. Donc la photographie était toute... Pensez pour ça.
Et là, je crois, alors je me trompe peut-être, mais je crois pas. Et pourtant, la seule photo dont vous parlez dans le livre, c'est une photo de sa grand-mère. Je crois pas que vous... Il y a une exposition de photos dont vous parlez, des photos, mais il y en a une de sa grand-mère, et on n'en dira pas plus. C'est une photo intime, finalement, où elle se révèle le plus que les photos, peut-être, qu'elle fait pour témoigner.
Oui, c'est une photo qu'elle prend presque malgré elle et qui est en effet beaucoup plus difficile, en fait, presque à supporter que les autres photos qu'elle a prises tout au long de sa jeune vie avec Marwan.
Voilà, c'est ça, j'avais écrit, elle pense avoir capté la beauté du monde. Vous pensez l'avoir capté déjà ?
Négatif.
Jamais ?
Évidemment que parfois on a des moments de grâce qu'on ressent comme ça. Évidemment, en littérature, ça peut arriver. Je pense que tous les lecteurs l'ont déjà vécu quelquefois. Ça arrive dans la nature, en forêt, en montagne. Je fais beaucoup de montagne et c'est vrai que des fois on a des moments où on est happé. Mais voilà, oui. Après capturé, non, je ne l'ai pas capturé.
Alors ça, je découvre qu'il y a deux sortes d'écrivains. Il y a les écrivains de mer et les écrivains de montagne. Vous appartenez à la montagne alors ?
Oh, j'irais aux deux quand même. Hein. Mais je suis très proche de la montagne.
Vous aimez ça ? Vous aimez ça, un paysage que vous aimez ?
Ah, c'est un paysage que j'adore. C'est un paysage chaotique, impressionnant, volubile presque. Donc oui, j'adore la montagne.
On revient à votre roman, pardon. Peut-être on dit un mot du personnage de Sergio et de ce qui s'est passé en Irak en 88, pardon.
Donc 1988, sans trop raconter non plus, mais c'est le massacre d'Al-Abja, donc la campagne Anfal, telle que va l'appeler, qui sera appelée à la suite des événements commis par le régime de Saddam Hussein, qui en fait mène une campagne de gazage des Kurdes au nord du pays, au nord du Kurdistan irakien. Voilà, Sergio est pris dans cet engrenage-là. Donc voilà, sans en dire évidemment plus.
Mais il y a toute une histoire, c'est pas toute une histoire, mais il y a un... Comment ? Bon, j'ai essayé d'être clair. Il y a... Parce que, comme on veut pas trop en dire, et tout en parlant du livre, il y a comme un rite que met en place Féfé qui autour des disparus. Est-ce que votre livre, c'est aussi ça que vous avez voulu faire, rendre hommage à tous ces disparus ? Pour qu'on ne les oublie pas, tous ces gens qui sont morts sous sous les attaques chimiques.
Il y avait cette volonté d'hommage qui était forte, et je ne sais pas trop l'expliquer pourquoi, mais j'avais en effet une volonté d'hommage.
Et même vous n'étiez pas né, vous, en 88 ?
Non, pas du tout. Non. Et puis, j'ai aucune attache, en plus. Après, j'ai découvert l'Irak, et voilà, mais je n'ai pas d'attache avec des personnes qui ont été concernées par 88. Mais une volonté d'hommage, oui, qui se traduit notamment dans le titre qui était initialement « À ceux restés la bouche dans le sable ». Voilà, on a coupé avec mes éditeurs pour raccourcir, mais voilà, il y avait cette volonté-là, en effet. Ouais.
Alors justement, je voulais qu'on parle un petit peu de vos éditeurs, quand même, qui sont situés à Marseille. La maison d'édition s'appelle Le Bruit du Monde, mais voilà, j'ai tout mélangé mes feuilles. Est-ce que c'est un choix que vous avez fait ? Parce qu'en vous lisant, on sent bien qu'il y aura d'autres romans, ça j'en suis à peu près persuadé. Est-ce que choisir sa maison d'édition, c'est comme rejoindre une famille ? Est-ce qu'il y a ces liens-là ? On regarde qui sont les autres auteurs avec lesquels on a envie d'être ?
Ah oui, c'est très vrai. Évidemment qu'on envoie à plusieurs maisons d'édition parce que c'est difficile d'être publié. Moi, je l'ai envoyé en effet à plusieurs. J'ai eu plusieurs retours. Mais Le Bruit du Monde était un retour express avec un énorme coup de cœur au téléphone avec la fondatrice. Et puis depuis, on a noué des liens en effet assez forts.
Vous êtes leur premier roman, ai-je appris.
Je suis leur premier roman de la rentrée littéraire.
Ah, de la rentrée littéraire.
Voilà. Et voilà.
Mais par exemple, quand on signe son contrat d'édition, on regarde avec qui on va être dans le catalogue.
J'avais lu des textes. En fait, j'ai envoyé une dizaine de maisons et c'était que des maisons dans lesquelles je m'imaginais. Donc, voilà, Le Bruit du Monde, il y avait aussi cette intention de vouloir se décentrer un petit peu de Paris, ce qui fait partie de leur ADN, sans rien renier bien sûr, hein, mais Marie-Pierre Grasdieu, la fondatrice, a été directrice littéraire chez Gallimard pendant plusieurs années et chez Stock, donc elle connaît très bien le milieu. Mais ouais, en effet, Le Bruit du Monde est une maison à taille humaine et extrêmement familiale, et les éditeurs avec Adrien Servière sont omniprésents. Je ne sais pas comment ils font, mais ils sont impressionnants pour leurs auteurs.
Pour vous finir, je vais vous citer une dernière fois, il y a un chapitre dont le titre est « Les rencontres ne sont jamais des coïncidences, mais des promesses ». Alors, quelle est la promesse de ce livre ? Parce qu'écrire un livre, c'est aussi une rencontre.
La promesse, c'est difficile. Il y en a plein, j'espère qu'il y en a quelques-unes. La promesse, déjà, c'est la promesse d'en écrire un deuxième, j'espère. Et puis surtout, c'est l'occasion, de manière très indirecte, d'essayer de toucher des cœurs qui n'ont jamais connu soit l'Irak, soit le conflit, de manière générale.
Dans de tisser des liens avec les lecteurs aussi.
Oui, bien sûr. Moi, je n'ai jamais connu ça avant. Et c'est vrai que depuis 4-5 mois, je découvre ce milieu-là, je découvre ces rencontres. Et c'est super touchant, en fait. C'est des moments de vie vraiment forts que j'ai envie de conserver, de perpétuer.
Parce qu'ici, il se passe quoi ?
Bah, pour un primo-romancier comme moi, c'est une vague assez impressionnante de sympathie, de bonté gratuite. J'ai rien demandé et en fait, on me fait évidemment pas mal de compliments. En tout cas, ceux qui ne l'ont pas aimé ne me le disent pas. Donc, ceux qui m'en parlent, ce sont que des personnes qui ont beaucoup aimé le livre. Et donc, c'est vraiment beaucoup de joie reçue gratuitement et des échanges très, très... très intéressant.
Vous avez eu des réactions des gens dont vous parlez, je veux dire des Irakiens, des Kurdes, est-ce que cette communauté, enfin je ne sais pas dire, c'est pas cette communauté-là, mais est-ce que des gens de cette communauté vous ont contacté pour en parler avec vous ?
Non, j'ai pas eu de... Non, alors en France, ils sont pas non plus très nombreux et moi, disons que mes contacts ne lisent pas le français, donc...
Vous espérez être traduit ?
J'aimerais bien, alors traduit en arabe, ça va être difficile, mais oui, j'aimerais bien être traduit au moins en anglais.
Très bien. Merci beaucoup Kevin Diévon d'être passé par le studio de radio. Oh pardon. Merci beaucoup d'être passé par le studio de radio Campus Paris. Je redonne le titre de votre livre La bouche dans le sable. C'est aux éditions Le Bruit du Monde et ça se trouve dans toutes les librairies. Merci vraiment.
Merci beaucoup.
C'était La Relève présentée par Christophe. La réalisation est assurée ce soir par Simon. Cette émission et toutes les précédentes sont sur le site de Radio Campus Paris. Enfin celle-ci, il va falloir attendre un petit peu. Parce que je ne suis pas toujours très rapide, mais on se retrouve dans 15 jours. Et moi, personnellement, je vous retrouve dans une demi-heure pour une première dans la matinale de Radio Campus Paris. On va parler cinéma. Merci, bonne soirée.